Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission mensuelle en direct sur Studio Zef. J'ai nommé Un œil ailleurs pour parler du monde comme il va, ou pas. Mes camarades voyageurs immobiles sont à mes côtés pour mener notre mission d'information subjective mais vérifiée. Bonjour Jérémy et Alice. Ça va ? Bon, très bien. Ouais, je vais arrêter peut-être de demander si ça va,
ouais,
en fait.
Ouais, parce qu'en fait, comme on est là, ça va.
Oui, parce que vous n'allez pas, de toute façon, même si ça ne va pas, vous
n'allez
pas,
le dire.
Hein, vous n'allez pas raconter votre vie comme ça en direct.
Absolument bon, très bien.
Alors, avant la carte postale sonore qui nous emmène ce mois-ci au Portugal et la chronique musicale où l'on parlera d'Afrobeat. Non, pas du tout d'Afrobeat. ça sera pour une émission prochaine. Vous verrez bien tout à l'heure. Hein. En tout cas, nous accueillons ce soir Stéphane Picard, Taufik et Amar. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Oui, bonsoir.
Stéphane, tu es président de l'association Les Divertisseurs, association blésoise.
Effectivement.
Donc, on te retrouve tout à l'heure pour la séquence interview avec Alice. Mm-hmm. Mais avant ça. C'est ton petit tour subjectif de la planète.
C'est mon petit tour subjectif de la planète. Ouais, on va voyager un peu là.
Allez, c'est parti.
Maurice.
On
a l'antenne. On a l'antenne.
Quelle heure il est ?
C'est l'heure de nous informer. En image, la semaine. Maurice.
Oh putain, je sais pas vous, moi. Il n'y a plus la guerre, moi je suis démobilisé.
Pour notre petit tour de la planète totalement subjectif, figurez-vous qu'une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par une bonne nouvelle. Hé hé ! Et on sourit, s'il vous plaît, dans le studio, depuis le temps que vous me le demandez. Direction l'Afrique du Sud, qui vient d'instituer un salaire minimum, lequel entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Et ce, curieusement, à 5 mois des prochaines élections générales. Mais bon, point de mauvais esprit ici. Réjouissons-nous pour les 6 millions de travailleurs pauvres, notamment le personnel de maison et le personnel agricole, qui vont pouvoir en profiter. Alors, bon, profiter, c'est peut-être un grand mot. Le salaire minimum sera en effet de 20 rands, c'est-à-dire 1,30€ de l'heure. Dans l'économie la plus industrialisée du continent africain, ça ne fait pas lourd, mais disons que c'est déjà ça. Enfin, déjà ça. La loi prévoit que les entreprises en difficulté n'auront pas à l'appliquer. Alors, l'Afrique du Sud va peut-être découvrir un nombre incalculable d'entreprises endettées à compter du 1er janvier. Pardon, on avait dit pas de mauvais esprit ici.
Et oui, et dans le Pacifique Sud, il y a un mauvais esprit ?
Mauvais esprit, pas forcément. Mais comme on s'y rend rarement dans ces contrées paradisiaques, je vous propose d'y aller. Et précisément, on va faire une halte aux îles Fidji. Mais en fait, loin des plages de rêve, on va plutôt parler malbouffe. Les autorités locales se sont étranglées lorsque Coca-Cola a annoncé la semaine dernière le triplement de sa production de bouteilles dans l'archipel pour satisfaire la demande. Et oui, parce que le souci, c'est que 9 des 10 pays les plus touchés par l'obésité sont des îles du Pacifique et que les Fidji n'échappent pas à ce triste sort. Alors, les adultes en avalent plusieurs litres par jour, avec toute la malbouffe qui va avec. Quant aux enfants, le Monde nous apprend qu'il n'est pas rare de les voir partir à l'école avec une bouteille de coca à la main. Et ce, même dans les villages les plus reculés, le marketing et la pub ont toujours su se frayer des chemins, même dans la jungle. Alors quand on parle d'obésité, c'est carrément un fléau, parce que le diabète provoque en moyenne 3 amputations par jour. Et puis au-delà de la santé, les autorités fidjiennes se font du mouron pour l'océan. Une étude récente a montré que 97% des poissons pêchés aux Samoa, aux Fidji, en Nouvelle-Zélande et à Rapa Nui contenaient des microplastiques. Alors si Coca-Cola triple sa production, qui est déjà de 21 000 bouteilles par heure, vous imaginez le résultat.
Eh bien, à propos de malbouffe, si on allait aux États-Unis.
Eh bien ouais, tiens, et pour deviner quoi ? Une bonne nouvelle. Encore. Début novembre, Trump a signé un décret interdisant aux immigrés arrivés clandestinement aux États-Unis de demander l'asile. Alors ça, c'était la mauvaise nouvelle. Selon ce décret, donc, seules les personnes s'étant fait enregistrer à un poste frontière pourraient faire leur demande d'asile. Une décision prise par Trump à l'approche de la fameuse caravane des migrants d'Amérique centrale qui se dirige doucement vers les USA. Mais heureusement, Trump n'est pas encore tout puissant. La cour d'appel de San Francisco a rejeté ce décret. Le juge, qui avait pourtant été nommé par George W. Bush, a estimé que l'exécutif a tenté de contourner le Congrès. Bon, c'est pourtant pas le genre de la maison.
Allez Alice, une petite dernière pour terminer notre tour en beauté et boucler la boucle.
Et ouais, cette fois, ce soir, on aura fait un vrai tour de la planète, car nous atterrissons au Sénégal, à Dakar, pour une ultime bonne nouvelle. Alors, 3 bonnes nouvelles sur 4, là, je pense que ça doit être l'approche des fêtes qui fait ça. Donc le 7 décembre, le président sénégalais Macky Sall a inauguré le musée des civilisations noires. Léopold Sédar Senghor en avait parlé dès 66 lorsqu'il présidait le Sénégal. Il aura fallu attendre plus de 50 ans et la bagatelle de 30 millions d'euros généreusement financée par la Chine pour le voir. Ce musée des civilisations noires est donc destiné à célébrer les réalisations de l'homme noir des débuts de l'humanité à l'époque contemporaine, explique Africa News. Selon le sous-directeur général de la culture de l'UNESCO, je cite, ce musée est une réponse aux aspirations des enfants d'Afrique à mieux connaître leur mémoire et à se faire mieux comprendre des autres cultures. C'est aussi un pas important vers la réalisation d'une Afrique dotée d'une forte identité culturelle, un patrimoine, des valeurs et une éthique commune. Fin de citation. Puis bon, allez savoir, c'est peut-être une réponse aussi à un certain Nicolas Sarkozy qui avait affirmé en 2007 que le problème de l'Afrique, c'était qu'elle n'était pas assez entrée dans l'histoire.
Voilà du blues touareg avec le groupe Amanar. Excusez-moi d'avance pour l'accent avec le morceau Al-Ghafiya. Alice, on va tout de suite démarrer la séquence interview.
Ouais. Voilà. Et c'est une émission un peu particulière aujourd'hui parce qu'on reste à Blois. Pas de voyage à l'autre bout du monde, mais une rencontre avec l'association Les Divertisseurs qui agit à Blois depuis 2017 auprès des demandeurs d'asile. Alors ce soir, on va parler migration, asile, accueil, actions concrètes. Et ce, avec Stéphane Picard, présidente des Divertisseurs, Amar Abdalmoula et Taoufik Mohamad, qui sont deux Soudanais arrivés à Blois, et ben, je ne sais pas exactement quand. Amar, tu es arrivé quand ?
2016.
2016, et Taoufik ?
2016. 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
le conseil d'administration des divertisseurs très récemment. Donc voilà, je pense que ça va être une émission assez riche. Alors juste avant de nous lancer, bah, on a quand même notre petit quiz classique hein, pour tester vos connaissances sur la demande d'asile. Top, c'est parti. Qui octroie la demande d'asile ?
Allez Véro, on te laisse répondre.
Oui, je cherche. L'OFPRA.
L'OFPRA, voilà, c'est ça. C'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et dont les décisions sont elles-mêmes sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, elle-même sous contrôle en droit du Conseil d'État. Question numéro 2. Combien a-t-on enregistré de demandes d'asile en France en 2017 ?
Eh bien, je risque...
Vas-y.
1500.
1500. Ah, alors, un petit peu plus.
5000.
Non, 100 412. Et alors, à tous les gens qui crient, qui poussent des cris d'orfraie en nous disant que c'est un score absolu, je dois rappeler que nous sommes 67 millions d'habitants, donc 100 412 demandes, ça représente 0,15% de la population. Et juste en comparaison, en 2014, le Liban avait accueilli 1 million de réfugiés alors qu'il en comptait 4 millions. Voilà, c'est juste pour resituer un petit peu. Troisième question, quel est le taux d'obtention du statut de réfugié en France ?
Stéphane, tu vas répondre.
Je dirais une quarantaine, 40% à peu près.
À peine, 36%. 36%. Et quel est le pays d'où proviennent la majorité des demandeurs d'asile en France ?
Oui, mais...
Alors, ça peut être Soudan, Syrie, ouais. Irak...
Eh bien non, c'est l'Albanie.
Ah ben oui.
Et
ah,
c'est ce qui explique ce si faible taux en fait, d'obtention du statut de réfugié, parce que l'Albanie est considérée comme un pays sûr, contrairement au Soudan, à la Syrie, à l'Irak, etc. Donc la plupart des demandeurs d'asile sont déboutés de leur demande.
Eh bien, merci pour vraiment
voilà,
toutes ces
voilà.
infos. Hein.
Ça nous met important. Un petit peu ouais. dans l'ambiance. Ouais. Alors, moi, première question, Stéphane, elle est née comment ? Cette association des divertisseurs.
Alors, l'association des divertisseurs est née en janvier 2017, lorsque donc une personne qui se trouvait à Calais avait gardé contact avec des personnes qui avaient été transférées, orientées vers Blois. Donc, l'orientation s'effectue par l'OFI, l'Office français de l'intégration et de l'immigration.
Au moment du démantèlement, en fait, oui. de Calais ?
Oui, c'est ça. Donc, elle avait gardé contact et des personnes l'avaient prévenue qu'ils se trouvaient isolés dans un centre d'accueil et d'orientation et qu'ils ne connaissaient personne, qu'ils avaient un petit peu peur de sortir, etc. Et donc, on s'est mobilisés pour ensuite se rendre au CAO et rencontrer les personnes qui étaient hébergées. Et ensuite, on a essayé d'évaluer les besoins, de voir un petit peu quelles étaient leurs attentes et de voir comment on pouvait y répondre. Et on a tout de suite commencé à donner des cours de français de façon informelle, à faire des sorties culturelles et puis à proposer donc diverses activités pour un petit peu sortir les personnes de leur routine.
Et alors, quand tu dis « on », c'est un collectif qui s'est formé comme ça sur le tas
Oui, on était une quinzaine au début. Une quinzaine de personnes volontaires pour accompagner. Et puis là, maintenant, on est une association qui compte environ 30 adhérents.
Bien. Voilà. Et alors, juste pour resituer, un CAO, c'est quoi ? Donc, centre d'accueil et d'orientation, mais c'est quoi la fonction du CAO ? Quand est-ce qu'on arrive dans ce genre d'établissement ?
Alors, un CAO, c'est justement quand il y a un démantèlement d'un camp, on peut ensuite être orienté vers cet endroit. Et c'est généralement, en fait, avant d'être orienté vers un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les personnes se retrouvent là, puis sont ensuite orientées vers d'autres structures. Donc, c'est vraiment un centre qui
c'est
est
censé être... d'attente en fait.
Voilà, c'est un peu une structure d'attente. Alors il y a des personnes qui restent pendant très longtemps, mais là il y a plusieurs d'autres dispositifs qui sont mis en place. Donc il y a voilà des CADA, il y a des PRADA, des plateformes régionaux d'accueil pour les demandeurs d'asile. Donc là généralement quand on est orienté vers un PRADA, c'est pas très bon signe.
Ah bon ?
C'est qu'on est souvent Dublin. Aussi.
Alors Dublin, tu peux rappeler ce que c'est
Alors Dublin, c'est les accords donc, de Dublin qui, quand une personne arrive en Europe, on prend les empreintes Et ensuite, ça génère une demande d'asile dans le pays où la personne est arrivée en premier. Donc, si une personne est arrivée en Italie et qu'ensuite elle se déplace vers la France, elle va toujours dépendre de l'Italie pour sa demande d'asile. Donc, quand elle va venir en préfecture et qu'on va se rendre compte en France que la personne, en fait, a pris ses empreintes en Italie, on va tout faire pour qu'elle puisse y retourner.
Le but, c'est de la renvoyer en Italie et qu'elle fasse sa demande d'asile en Italie,
c'est une
façon de se débarrasser.
D'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont Dublin, Italie, Bulgarie, Hongrie, Et donc, ils ne peuvent
pas... Grèce aussi ou...
Grèce, mais pas beaucoup.
Pas trop, d'accord.
Mm-mm. Donc, c'est surtout Italie. Puis ensuite, donc, les personnes sont assignées à résidence, puis renvoyées vers ce pays, en fait.
Et les PRADA, donc, ce sont des centres d'accueil aussi. Ce sont des établissements, mais simplement, il n'y aura pas l'aide d'un CADA pour obtenir le statut de réfugié.
Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, il y a vraiment plusieurs dispositifs qui sont mis en place. Là, il y a des centres provisoires d'hébergement aussi qui sont... pour les personnes qui sont statutaires, qui ont leur statut de réfugié, qui ont moins de 25 ans. Donc voilà, il y a plusieurs, il y a vraiment différents dispositifs mis en place.
Et Amar et Taoufik, quand vous êtes arrivés à Blois, vous veniez de Calais, c'est ce qui s'est passé pour vous ?
Non, moi j'ai venu à Paris.
D'accord, tu venais de Paris ?
Oui.
D'accord, et tu t'es retrouvé au CAO ?
Non, c'est à l'AFPA.
À l'AFPA, d'accord, à l'autre centre d'accueil, oui, parce que l'AFPA de Blois accueille aussi un certain nombre de demandeurs d'asile. Et Taoufik, comment ça s'est passé pour toi, ton arrivée à Blois ?
Oui, c'est Paris, après j'ai Blois aussi, j'ai arrivé à Blois.
À Blois, de Paris ?
Oui.
De Paris ? Oui. Et au CAO ou
Oui, CAO.
Au CAO. Et comment ça s'est passé au CAO ? Est-ce qu'il y avait des gens pour vous aider, pour vous accompagner ?
Oui.
Ouais, il y avait un éducateur qui...
Un travailleur social.
Un travailleur social.
Enfin, plusieurs, deux.
Deux.
D'accord. Ouais. Qui vous expliquait un petit peu comment ça allait se passer ?
Bah oui.
Ouais. Toi, Amar, à l'AFPA, est-ce qu'il y avait des travailleurs sociaux pour vous accompagner, pour vous expliquer comment ça allait se passer ?
Oui, maintenant, je ne sais pas, mais avant, il y en a deux.
D'accord.
Dalinda...
Ok.
Jennifer.
Et qui vous expliquait comment la procédure à suivre, en fait.
C'est ça.
D'accord, donc vous n'étiez pas complètement isolé arrivant à Blois. D'accord. Et alors, donc, les divertisseurs, donc une trentaine de personnes, concrètement, alors, c'est quoi les actions de l'association ?
Alors, nous, tout ce qu'on propose, on avait décidé de mettre l'emphase sur le cours de français, sur l'importance de maîtriser la langue française pour justement faciliter l'intégration. Donc, on propose deux cours de français qui ont lieu à La Fabrique, qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement.
Ouais, La Fabrique est un gros partenaire. Enfin, vous êtes, il y a un gros soutien des divertisseurs,
Exactement,
je crois.
On fait beaucoup d'actions avec La Fabrique. Donc, on propose un cours de français le lundi à 18h30 jusqu'à 20h et le jeudi également. Même horaire, donc 18h30-20h. Et ensuite, donc, on a plusieurs bénévoles qui viennent pour dispenser les cours de français. Et les personnes, c'est ouvert à tous. Donc, des personnes qui nous entendraient, qui souhaiteraient venir pour apprendre à lire, à écrire ou faire des cours de français débutants ou avancés. Tout le monde est bienvenu au cours.
Et puis, je me permets, pour y avoir participé, c'est très sympa. C'est un chouette moment.
Oui, exactement. C'est un moment où... de partage aussi, tissage de liens. Et puis, on y tient beaucoup à ces cours de français. On est aussi à la recherche de nouveaux bénévoles. S'il y a des personnes qui veulent s'engager à nos côtés pour donner des cours de français, ils sont les bienvenus. On donnera nos coordonnées
Fin d'émission. Voilà. Et puis, elles seront sur la page, de toute façon, Un œil ailleurs, sur Studio Zef.
Et ensuite, on propose donc toujours avec La Fabrique un café des langues de manière mensuelle. Donc, ça aura lieu le jeudi 20 décembre à La Fabrique aussi.
Et c'est quoi le principe du Café des Langues ?
Alors, le Café des Langues, au début, on était vraiment parti sur cette volonté de partager les cultures, de partager les langues. Puis, finalement, on s'est rendu compte que la barrière de la langue était quand même assez importante. On fait beaucoup de jeux, on fait beaucoup d'activités un peu brise-glace pour justement apprendre à se connaître et puis quand même partager ensemble un moment convivial. Donc, je sais que Amar et Taoufik sont des adeptes. Ils viennent toujours à la Cafette des Langues.
Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte, hein, de venir à la Cafette des Langues ? Qu'est-ce que c'est ce moment pour vous ?
Bon, reconnaître Amar. Les gens.
Ouais.
Plus pour discuter avec les gens ou tout ça.
D'accord, ouais, rencontrer en fait.
Oui. Mm-hmm.
Et des gens, des Français ou même entre vous?
Importe. Vous... Ouais. Il y a anglais, il y a un portugais, il y a un espagnol.
D'accord. Mm-hmm. Ah ouais, c'est bien, ça fait venir des gens d'un petit peu partout.
Oui, 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 on okay. réussit quand même à avoir un mélange au niveau des langues. Donc il y a quand même, si on veut parler anglais, on peut quand même trouver des gens qui parlent anglais, qui parlent espagnol,
d'accord.
qui parlent arabe. Qui parlent d'autres langues aussi, parce que quand même, Soudan, on ne parle pas que arabe. Mmh. On parle quoi comme langue, Taufik?
C'est langue maternelle, Zarawat, Fort, c'est ça.
Uh-huh. Donc ouais. toi, Amar, c'est quoi ta langue maternelle?
Mon langue, c'est Fort.
C'est le Fort.
Ça s'appelle Fort. Mmh. Mon langue, c'est Fort.
C'est Fort. Mmh. Ah oui, il y a plusieurs langues, il y a des langues différentes
oui,
au Soudan.
Bah, mmh.
D'accord. La langue fédératrice, c'est l'arabe.
C'est l'arabe.
C'est arabe,
d'accord,
oui.
ok.
Et donc après, on propose...
Et ce Café oui. des Langues, c'est de 19h à 21h,
oui,
c'est
19h
ça
à un jeudi par mois. Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on propose, on a d'autres partenaires aussi avec qui on fait des actions. Par exemple, ce samedi, au Lobbies, on organise une soirée cosmopolite.
Alors, ça va être quoi? C'est quoi le programme et c'est à quelle heure?
Alors, c'est à 19h. Et donc, on s'est réunis avec plein de personnes pour choisir ensemble. Qu'est-ce qu'on a choisi ensemble, Amar, Taufik? Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois?
On a musique, la musique des fois.
On a choisi des musiques, en fait. On a une playlist pour danser sur des musiques du monde.
Bien.
Voilà. Et puis ensuite, on voulait peut-être improviser quelques pas de danse. Donc ça, ce sera Taufik, le danseur professionnel.
C'est vrai? c'est vrai que tu es danseur professionnel ou c'est ton rôle
Il a un vrai talent.
D'accord.
Il aime beaucoup danser, n'est-ce pas, Taufik?
Bah oui.
D'accord. C'est ça. Et donc, ensuite, donc, on espère aussi pouvoir partager quelques plats, si tout le monde peut ramener quelque chose pour découvrir un petit peu les recettes d'ici et d'ailleurs, ça serait sympa aussi. Voilà,
d'accord.
Donc c'est à 19h et c'est jusqu'au bout de la nuit.
Dans le hall des Lobbies.
Oui, dans le bar Les Lobbies.
Dans le bar,
voilà.
D'accord.
Donc en partenariat donc avec Juliette qui
tient le bar.
Qui tient le bar et qui souhaitait organiser ce moment avec les divertisseurs.
Ah, mais voilà. Ça, c'est... D'accord. Et donc, voilà, il y aura toutes les nationalités réunies.
Oui, c'est le principe qu'on soit là, tous, avec notre bagage, et qu'on soit aussi là pour découvrir et rencontrer de nouvelles personnes.
D'accord. Moi, ce que j'avais noté, c'est que dans divertisseur, enfin, je suppose que le nom n'est pas un hasard, il y a ce mot tisseur. Mmh. Et l'idée, c'était vraiment de favoriser l'intégration.
Oui.
Des personnes probablement un peu perdues à leur arrivée en France.
Bah, c'était de favoriser oui, le lien entre les personnes blésoises et les nouveaux blésois. Donc de pouvoir vraiment être bienveillant, avoir cet accueil, puisqu'on n'est pas avec des politiques, au niveau des politiques migratoires, c'est pas... c'est pas la bonne nouvelle. Mais donc, on s'est dit qu'on souhaiterait vraiment accueillir et puis partager et montrer qu'on était capable quand même de faire des choses tous ensemble.
Montrer un côté positif
de la France
et de l'accueil français. Est-ce qu'il y a toujours des sorties d'organiser?
Oui, on est aussi relais social de Culture du Cœur. Donc on a à notre disposition des places de spectacle, des places pour des rencontres sportives. On avait organisé plusieurs sorties. On a été à Chambord.
Oui.
D'accord.
Ouais.
Donc Chambord, ça c'est la sortie à faire. C'est trop chouette.
En ce moment, ça doit être assez sympa. C'est super l'été, mais là, avec les décorations, ça peut être aussi...
Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. On pourrait en organiser une prochainement. Et puis ensuite, on a des places pour aller au cinéma. Et on organise aussi des repas interculturels. Donc, il y a un mois, on a fait un couscous. Donc,
d'accord.
Coralie et sa belle-sœur avaient concocté un super couscous. Et nous, ensuite, on a fait un cours de français autour de la cuisine. Donc, on a lu ensemble des recettes de cuisine et on avait fait beaucoup de plats à côté. Voilà.
D'accord. C'est pareil, chacun avait amené...
On avait fait tous ensemble, en fait. On avait fait les courses. Coralie avait fait les courses et ensuite, on s'était...
Vous aviez cuisiné tous ensemble.
On avait cuisiné tous ensemble, voilà.
Donc, c'était un festin, si j'en crois vos visages.
Oui, c'était très bien.
D'accord. Et c'était à la fabrique aussi.
Et c'était toujours à la fabrique.
D'accord. Voilà. Et vous allez l'institutionnaliser, ce repas
On essaie d'en faire un par trimestre, généralement, pour favoriser ce lien-là. Et puis, mais c'est quelque chose qu'on aime bien faire, qui permet d'être tous ensemble. Et là, de cuisiner, c'est toujours marrant de cuisiner une salade de fruits et puis ensuite d'être invité et de manger une salade de fruits aussi, quoi. On se dit finalement l'appropriation de la recette est bien passée.
D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Et alors, Amar, qu'est-ce que ça t'a apporté, les divertisseurs ?
Beaucoup de choses. Par exemple, apprendre le français, sortir un peu.
Ouais.
Bon, en plus, le repas partagé, on fait le repas partagé.
Mm-hmm. Tout. Et alors, tous les deux, vous êtes entrés au conseil d'administration. Moi, je trouve que c'est une super preuve d'intégration. Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer ? Est-ce qu'on vous a poussé à entrer au conseil d'administration un peu ?
Ouais.
mais je crois que du coup, ça vous permet aussi de faire des propositions. Et notamment, on parlait tout à l'heure en préparant l'émission, vous avez lancé l'idée de faire une soirée soudanaise.
Oui.
Ce qui vous permet aussi, vous, de proposer des choses.
C'est ça.
Et ça, c'est plutôt pas mal comme retour ouais. d'expérience, quoi. Et quand vous êtes arrivés en France, tous les deux, vous aviez appris un peu le français à Paris ?
Non.
Non, donc vous l'avez complètement appris à Blois.
J'ai été un an à Paris, mais j'ai jamais été à l'école.
D'accord. Bon, on se fait une petite virgule et puis on reprend justement par la parcours de demande d'asile après. Donc on reprend cette discussion, on est en direct sur Studio Zef avec Stéphane Picard, présidente des Divertisseurs, Amar Abdalmoula, Taoufik Mohamad. Et vraiment, c'est très très sincère, je suis vraiment très très contente que vous soyez venus tous les trois. Donc on a parlé accueil, on va dire positif. Je pense que ça peut être un peu intéressant de faire le point sur le parcours de la demande d'asile. Comment ça s'est passé pour vous ? Arrivé donc en 2016, alors je ne sais pas, Taoufik, Amar, qui veut prendre la parole ? Peut-être Amar est un petit peu plus à l'aise, je ne sais pas, mais Taoufik, ne te gêne pas. Quand vous êtes arrivé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, l'arrivée en France ?
C'est dur un peu.
Ouais.
Parce qu'on parle, nous, on ne parle pas français. Après, je ne connais rien. Pour demander asile, il faut trouver un Soudanais. Il est longtemps ici en France. Après, moi, j'ai demandé asile à Paris.
Ouais, à Paris, d'accord.
À Paris, oui.
Mm-hmm. Tu es arrivé tout seul à Mar, en France, ou tu étais avec des amis ou...
Non, moi, j'arrive tout seul.
D'accord. Et le trajet, t'as pris combien de temps depuis le Soudan jusqu'à Paris ?
Le Soudan jusqu'à Paris, c'est 2 ans.
2 ans ?
Oui, parce que moi, j'étais à Libye. J'ai travaillé là-bas, à Libye.
D'accord. Et donc après, tu as traversé en bateau ?
Oui, en bateau, Italie.
Jusqu'en Italie ?
Oui.
Et après, à pied, la remontée ?
Oui, jusqu'à France.
D'accord. Et est-ce que c'est en France que tu voulais venir ou pas forcément ?
Ou pas forcément.
C'était quoi, l'Angleterre ?
Non.
Non ?
Non.
C'était où ? Tu savais où tu voulais aller ?
Non.
D'accord.
Justement, il est sorti comme ça.
D'accord. Et alors, à un moment, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ben, là, je m'arrête en France ? Pourquoi tu t'es dit je m'arrête en France et je continue pas, enfin, pourquoi tu t'étais pas arrêté en Italie par exemple, qu'est-ce qui...
Parce que en Italie, j'ai entré en Italie, j'ai eu les gens, ils dorment sur la route, il y en a pas pied, mais ils dorment sur la route.
D'accord.
Après, j'ai entré en France ici, j'ai eu comme moi nouveau, j'ai gardé le nouveau, ils dorment sur la route comme moi.
D'accord.
Mais comme quelqu'un a papier, votre verre, un logement, tout ça, pour ça dire.
Et à Paris, qui t'a aidé à faire ta demande?
C'est Soudanais.
Des Soudanais.
Des Soudanais.
C'est pas une association.
Non.
T'as pas été accueilli.
Non, là-bas à Paris, c'est comme ça. Tu veux aller tout seul.
Il faut se débrouiller.
Tout seul.
D'accord. Et alors, comment tu es arrivé à Blois?
Je demande, j'habite dans l'hôtel pendant un an à Paris.
D'accord.
J'ai demandé un logement à, quelque part dans un compagnon, dans une petite ville.
D'accord.
Pendant un an, il n'est pas donné à moi. Après, j'ai sorti. Il y a, j'appelle comment, les gens, ils dorment sur la route. Après, le policier, il vient avec le bus et l'amène.
D'accord.
Il apprend tout.
C'est quand ils font des démantèlements de camps et ensuite ils sont réorientés parfois par l'OFI.
D'accord.
Enfin, ils sont réorientés par l'OFI, puis ensuite. Donc c'est pour ça qu'il a été transféré.
D'accord, ça a été d'un camp, tu étais dehors et on t'a envoyé à Blois.
C'est ça.
Et est-ce que tu te souviens de ton impression quand tu es arrivé à Blois? Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé? Est-ce que, j'imagine, quand on t'envoie comme ça dans une ville, ça doit être difficile encore l'arrivée.
Oui, c'est difficile parce que tu ne connais pas personne ici. Plus, on ne connaît pas le centre-ville, centre commercial, tout ça.
Donc là, au CAO, du coup, tu as été orienté au CAO Godino, hein,
non.
Ah, c'était l'AFPA, pardon, excuse-moi, tu me l'as dit tout à l'heure, mais à l'AFPA. Et là, tu as été accompagné.
Oui.
Par des travailleurs sociaux pour t'aider à faire ta demande d'asile.
Oui, c'est ça. Mais je ne demande pas d'asile à Boulou ici. Je demande à Paris.
Oui, c'est ça.
J'ai eu mon papier là-bas. Après, je m'en ai.
D'accord. En fait, ta demande d'asile était faite à Paris.
Oui.
Donc, le dossier a été transféré.
Transféré à Blois.
À Blois. Et alors, voilà, tu as fait ta demande d'asile en 2016.
2015.
2015, oui. D'accord, et tu es arrivé en 2016 à Blois.
Oui.
Quand est-ce que tu as été convoqué? Alors, en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une demande d'asile? Est-ce qu'il faut remplir un dossier?
Oui.
Il faut remplir un dossier.
Un dossier, après.
Et le dossier, Amar, il faut le remplir dans quelle langue?
En français.
En français.
En français.
Voilà, c'est ça. Donc, quand on parle arabe ou ta langue natale, c'est pas très pratique.
Non, c'est pas pratique du tout. Et c'est surtout, je voudrais juste préciser, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils arrivent, on leur envoie un dossier OFPRA en leur disant, voilà, vous avez quelques jours pour nous le renvoyer rempli. Donc déjà, il faut avoir compris la teneur du message.
D'accord.
Et ensuite, effectivement, il y a un récit de vie à écrire en français. Donc un récit de vie, c'est pourquoi est-ce que vous êtes ici, qu'est-ce qui s'est passé, expliquez-nous. Et pour pouvoir le rédiger, effectivement, il faut avoir des bases solides en français ou bien être accompagné par un travailleur social qui s'y connaît pour faire ce genre de demande.
Si on est tout seul, en gros, c'est peine perdue, soyons honnêtes.
Voilà, oui.
D'accord.
Oui.
Et la première démarche, c'est à la préfecture, en fait, qu'on vous demande de remplir ce dossier rapidement?
Oui.
C'est ça?
Oui.
D'accord. Et alors, ce dossier, du coup, tu l'as rempli comment? Toi qui étais tout seul à Paris
Non, moi, il a demandé est-ce que tu parles français ou tu parles anglais. J'ai dit non, ils nous ont appelé pour traduire.
D'accord. Et alors, une fois que tu as renvoyé ce dossier, ça a pris combien de temps pour être convoqué à l'OFPRA pour un entretien?
Pour moi, c'est 4 mois.
4 mois?
Oui.
T'as oufique, toi, entre le moment où tu as envoyé ton dossier, ton rendez-vous, ça a été combien de temps?
C'était un mois, ça.
Un mois?
Oui.
Ça a été assez rapide?
Oui.
D'accord. Et alors là, comment ça se passe à l'OFPRA? Vous avez un rendez-vous, c'est ça? Un entretien où vous devez expliquer?
Oui, un rendez-vous pour expliquer comment tu as un problème au Soudan, tu as un coin. Après, on t'attend la réponse.
Et là, vous êtes accompagné d'un traducteur hein, quand vous êtes à l'OFPRA, d'accord? Et la réponse, ça prend combien de temps derrière?
Chacun est différent. Moi c'est 1 heure écart.
L'entretien a duré 1 heure et quart.
Oui.
Mais après l'entretien, au bout de combien de temps tu as eu ta réponse?
Pour moi, c'est 4 jours.
Quatre jours?
Oui, dans un 4 jours, j'ai reçu la réponse.
D'accord, qui était du coup positive.
Oui. Ah, non.
Non.
Ah, oui, positive. J'ai perdu. Oui,
c'est ça, c'est-à-dire qu'on t'avait accordé le statut de réfugié.
C'est ça.
D'accord, 4 jours, c'est très peu, c'est rare.
Oui.
Toi, Taoufik, ça a été combien de temps?
Moi, j'ai deux jours, ça.
Deux jours ?
Oui, c'est après, j'ai refusé, c'est ça.
D'accord, entre l'entretien et la réponse.
Oui.
D'accord. Ah oui, donc c'est bien, c'est rapide. Ouais. La moyenne, Stéphane, tu la connais
Normalement, c'est 9 mois.
C'est 9 mois, d'accord. Donc vous étiez vraiment sur certainement des régions connues très à risque et reconnues. D'accord.
Mais normalement, effectivement, c'est 9 mois. Et s'il y a un refus de la part de l'OFPRA, ensuite, il y a un recours qu'on peut faire auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui ensuite doit étudier le dossier, qui reconvoque les personnes qui sont accompagnées de leur avocat, généralement.
Là, il faut un avocat,
ouais. Voilà, et là, ça dure... on a des personnes qui ont attendu plus de 15 mois, donc entre le moment où ils ont fait justement le recours et la convocation. Donc, ça veut dire qu'il y a pendant plus de 3 ans, parfois, des personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler, de faire des études, absolument rien.
C'est ça. Quand on est demandeur d'asile, je crois qu'on peut travailler dans certaines conditions. Non, pas du tout.
Normalement, pour travailler, il faut une pièce de... Enfin, un titre de séjour, donc non.
D'accord, ok. Donc, à partir du moment où vous avez eu votre statut de réfugié, ça vous a ouvert des droits, c'est ça ?
Oui.
Et maintenant, vous avez une carte de réfugié pour combien de temps, tous les deux ?
Moi, c'est 10 ans.
10 ans, Taoufik ?
Oui, c'est moi, 10 ans.
10 ans aussi.
Oui.
Et à partir du moment où vous avez eu votre statut de réfugié, ça vous a ouvert droit à travailler, à faire des formations ?
Oui, ça a ouvert pour tout.
Ouais. Avoir un appartement aussi ?
Si, ça.
Pour toi, Amar ?
Oui.
D'accord. Toi, Taoufik, tu es toujours au centre d'accueil et d'orientation, c'est ça ?
Oui.
D'accord. Et par contre, tu as une formation, tu suis des cours de français ?
Oui.
Dans la semaine ? D'accord.
Non.
Et Amar, du coup, tu travailles, je crois qu'assez rapidement, tu as trouvé du travail.
Oui, j'ai travaillé, j'ai fait formation en même temps.
D'accord.
Et ça commence le mois de janvier.
D'accord. Une formation, donc, tu nous disais tout à l'heure de...
Coffreur-bancheur
pour travailler dans le bâtiment. Stéphane, là, on parlait tout à l'heure de la qualité d'accueil de la France en matière d'immigration. Les conditions se sont assez durcies. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a changé Alors, je crois que c'est en 2018 ou 2017, je ne me souviens plus.
Alors, au niveau de la loi, après, moi, je ne suis pas une spécialiste au niveau de ça. Après, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est surtout des reconduites c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au niveau de Dublin. Donc, avec des personnes qui ne vont pas pouvoir faire leur demande d'asile en France.
Ça concerne beaucoup de monde à Blois ?
Ça concerne quand même pas mal de personnes. Là, je pense qu'il y avait eu une trentaine de personnes qui ont été renvoyées en Italie. On est sur des chiffres qui sont assez importants, puisque normalement un CAO c'est entre 30 et 35 personnes. Oui. Donc il y a au niveau des mineurs, donc il y a tout un... Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont problématiques. Donc là, on voudrait effectivement faire un rassemblement lors de la journée internationale pour les personnes migrantes.
C'est le mardi 18.
C'est le mardi 18. Donc on aimerait se rassembler devant la préfecture à 17h pour pouvoir montrer notre désaccord avec les politiques au niveau national et au niveau même européen. Donc là, vous avez vu que l'Aquarius aussi, il est mis... Il ne peut plus
prendre la route, enfin la mer.
Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont problématiques, qui posent question à l'époque. Enfin, à ce moment, c'est vraiment crucial qu'on se mobilise pour justement montrer notre désaccord par rapport
à ça. Et puis, surtout à une période sociale... pas très agréable, où certains manifestants du moment commencent à... Il ne faudrait surtout pas que le gouvernement craque face aux revendications du moment qui considèrent qu'on donne trop aux migrants, si j'ai bien compris. Parce que c'est un problème qui n'a absolument rien à voir avec, avec les problèmes sociaux des Français. Les mineurs isolés... Vous, Amar Taoufik, quand vous êtes arrivés, vous aviez quel âge ? Vous étiez majeurs tous les deux ?
Oui.
Ouais. Vous avez quel âge aujourd'hui tous les deux ?
J'ai 27 ans.
Amar, 27 ans ?
Moi, j'ai 26 ans.
26 ans, Taoufik. Oui. D'accord. Donc, vous avez passé le cap des 25 ans, donc vous avez droit au RSA.
Oui.
Parce que se pose aussi... Donc, le problème des mineurs, c'est le problème des mineurs isolés, c'est ça ? Ils sont censés... tout mineur qui arrive en France est censé être scolarisé ou pas ?
La scolarisation est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc au-delà, c'est pas obligatoire. Après, les services de l'État, pour certains, réussissent à les scolariser. Pour d'autres, c'est compliqué, sachant qu'en plus, il n'y a pas suffisamment de dispositifs pour accompagner les personnes qui ne parlent pas français.
Mais bien sûr, pour les intégrer dans le système classique.
Donc, normalement, c'est une UP2A, donc des unités d'enseignement spécialisées justement sur l'apprentissage du français. Il n'y a pas suffisamment de places. Donc, on se retrouve avec des enfants qui peuvent aussi être mis dans des classes avec... Donc, c'est ma casquette professeur à côté, hein. Qui sont dans des classes avec des personnes qui parlent, des élèves qui parlent français et qui se retrouvent perdus et en décrochage scolaire. Donc il y a vraiment besoin d'un accompagnement.
Et des UP2A, il y en a à Blois ?
Il y en a à Blois, il y en a à Bégon, au collège Bégon notamment. Et il y en a une autre aussi, mais je ne me rappelle plus où exactement. Mais voilà, il n'y a pas suffisamment de place. Et de toute façon, il y a vraiment besoin d'ouvrir, surtout avec les problématiques actuelles. Il faut prendre en compte les besoins du moment. Et là, c'est vraiment un besoin majeur. Donc,
Et toute personne déboutée du droit d'asile, du coup, se retrouve mise à la porte du CAO, mise à la porte des CADA.
Ah oui, même en hiver.
Voilà. Même en hiver, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on se retrouve avec des gens à la rue, en gros.
Oui, il y a des gens qui sont à la rue si la trêve hivernale ne fonctionne pas. Donc, effectivement, si une personne est déboutée, n'a pas de réponse positive de la CNDA, c'est directement à la rue. Donc on se retrouve effectivement avec des femmes, des enfants qui en ce moment, pendant qu'on est en train de vous parler ce soir, sont à la rue ou sont chez des compatriotes si elles ont cette chance-là. Voilà, c'est une situation qui est dramatique pour beaucoup de personnes. Et là, nous sommes à Blois, mais imaginons à Paris aussi la situation.
Alors, d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'avec les divertisseurs, il est possible de faire des dons, je ne sais pas, vaisselle, drap, parce que quand vous vous installez dans les appartements, est-ce qu'il y a besoin ou est-ce que ça ne fait pas partie des missions de l'association ?
Effectivement, on prend des dons pour aider les personnes qui ont des logements ou qui justement viennent juste d'arriver et n'ont pas suffisamment de vêtements, etc. Donc ça, oui, c'est des choses qu'on accepte volontiers. Meubles, vaisselle, vêtements, jouets, c'est Noël.
D'accord. Allons-y. Pour en savoir plus, en tout cas, le contact des divertisseurs, comment on vous trouve ?
Alors, donc, par email, les.divers.tisseur au pluriel 41@gmail.com ou sinon nous avons une page Facebook les divers.tisseur.
Très bien, de toute façon on mettra toutes ces coordonnées là sur la page Un œil ailleurs du site internet de Studio Zef.
Exactement.
Et on se retrouve donc samedi.
Oui, samedi, voilà. Soirée au Cosmopolite. Exactement. À 19h au Lobby.
Au Lobby. Voilà. Et la Café des Langues le 20.
Le vin, le jeudi d'après.
À la Fabrique.
Tout le monde est le bienvenu.
Bien sûr.
Ouais.
Sur la page Facebook, donc tous ces événements, évidemment, sont relayés.
Bien sûr.
Voilà. Enfin, c'est tenu à jour.
Oui, c'est tenu
à jour. Et si vous avez envie de donner de votre temps, de venir donner des cours de français, d'accompagner, de venir rencontrer tout simplement aussi d'autres cultures,
vous êtes les bienvenus.
Voilà. Rendez-vous soit le lundi soir, samedi soir, pour faire connaissance.
Voilà.
Par mail ou sur Facebook.
Vous merci. Pardon.
Pardon. Non, je voulais vous remercier.
Bah bien sûr.
Tous les trois.
De toute façon,
merci à vous en tout cas.
Vous restez avec nous.
On reste avec vous.
Jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
Voilà. Bon, alors, attention, Taoufik, il va y avoir de la musique. Ne te mets pas à danser. Pas tout de suite.
D'accord.
Alors, bon, alors, toi, tu as fait ton quiz au départ, hein ? Voilà, alors, bah, évidemment, on ne peut pas deviner où c'est, hein. Voilà, la carte postale sonore, c'est maintenant. Eh bien, j'étais sous le pont du 25 avril. Ah, le pont du 25 avril, c'est où ?
Où est-il ?
Où est-il ? 25 avril... Non, ça ne vous dit rien.
25 avril 1973, ouais. Par exemple.
Bravo.
Une révolution des œillets.
Exactement. Donc, le Portugal. Le Portugal, donc, c'est un pont assez étonnant. C'est un pont avec une structure d'acier de plus de 2 km de long, en fait, qui traverse le Tage et qui relie Lisbonne au nord à Almada au sud. Voilà. Que c'est assez étonnant parce que les véhicules, ils passent à la fois les véhicules et à la fois le train. Voilà. Donc, quand on est en dessous, ça fait un bruit absolument assourdissant. C'est une structure en acier étonnante, absolument magnifique. Donc c'est, oui, enfin c'est un petit bijou d'ingénierie. Et voilà, à l'origine, le pont avait pour nom le pont Salazar, de triste mémoire du nom du dictateur qui régna sur le pays pendant 48 ans quand même. Hein.
Voilà. Bah, tant qu'une fois qu'on est installé, hein, je veux dire.
Bah, souvent les dictateurs, ils sont.
Hein, ouais, oui, oui, oui. Hein, une fois qu'ils sont en place,
ils n'ont pas envie de partir. Ouais. Hein, ouais. Et puis ils meurent tard hein, hein, aussi. Mmh. Ouais. Mmh. Alors, il sera ensuite renommé le pont du 25 avril, le jour de la révolution des œillets qui mit fin à la dictature. C'était la petite carte postale sonore. Eh bien, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque tout de suite après la petite pause, on embraye sur la chronique musicale. Voilà 8 divas africaines réunies dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Tel est l'objectif des Amazones d'Afrique, collectif féminin qui a sorti un premier album l'année dernière intitulé République d'Amazon, avant de partir en tournée en Europe. En tant que femme musicienne ou chanteuse, on a deux fois plus de choses à prouver. On se bat au quotidien pour notre condition de femme à la maison et dans notre travail, pour qu'on nous écoute. Alors voilà, le message est clair. 8 chanteuses, dont certaines à la renommée internationale. À l'origine du projet, les 3 divas maliennes, Oumou Sangaré, Mamani Keïta et Marianne Doumbia, du duo Amadou et Mariam, qui ont donné en octobre 2015 leur premier concert commun au Festival de la Fiesta des Suds à Marseille. En 2016, le trio a décidé d'élargir son horizon en invitant la grande griotte Candia Kouyaté, la légende germano-nigérienne du hip-hop Neka et la jeune actrice et chanteuse Ina Modja. Bora san saluta ni fila kono kamenya nina anga moku peka sa dungudu ko kele munte ban ode da bora antansi giganda minesa. Du côté des chœurs, on découvre 2 artistes encore peu connus, l'auteur-compositrice interprète Mariam Koné et la pétillante Pamela Badjogo à l'univers afro-jazz. Enfin, la batteuse malienne Mounaïssa Tandina vient compléter le collectif. Un métissage générationnel qui nous emmène dans un univers de blues mandingue, funk, brume de dub et rythme électro. Bref, écoutez cette merveille, en plus du voyage musical, vous ferez une bonne action. Les paroles des chansons parlent d'égalité, de lutte contre les violences faites aux femmes, de la fin du silence et de l'impunité. Tous les bénéfices de la vente du single « I Please Cora », 11e titre mascotte de l'album République Amazon, sont reversés à la fondation Panzi du docteur gynécologue Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, qui opère depuis plus de 15 ans dans l'hôpital qu'il a fondé, des femmes victimes de sévices sexuels dans la province du Sud Kivu en RDC. Menacé de mort, ce médecin est d'une incroyable humanité, vit dorénavant cloîtré dans son hôpital sous la protection des casques bleus. Un excellent documentaire lui est consacré, c'est aussi un titre métaphorique puisque jouer de la cora, cette harpe de l'Afrique de l'Ouest, est resté longtemps un privilège réservé aux hommes. La chanson commence par ce cri de guerre, « Femme, réveille-toi ».
Tibidona, kongobora, sankaluta ni fila kono kamenyani na amo kupeka sadu mbudu kukele mtepang odi dabora antansi jikanda minesa kanga dikutu kafiru bolusa niko kubi normine, kubi sumine lise kuchepe kuba nimine kuba nimine pe kuba nimine kuba nimine kuba nimine.
Voilà, c'était le projet Les Amazones d'Afrique, un collectif d'artistes africaines, maliennes, béninoises, nigérianes et gabonaises. Il nous reste un peu de temps. On peut encore discuter.
Moi, j'aimerais bien parler musique, justement. Le Soudan, est-ce qu'il y a une tradition musicale importante ?
Oui.
Ouais, ouais. Vous avez beaucoup d'artistes. C'est de la musique quoi, traditionnelle ? Est-ce que
il y a un reggae, il y a tout.
Il y a du reggae ?
Oui.
Ouais, toutes sortes. Et il est facile de faire de la musique au Soudan ?
Ça dépend.
Ouais, c'est-à-dire ?
Chacun a de sa musique.
D'accord.
Oui.
Ok. Et musique traditionnelle aussi ?
Oui, il y en a aussi.
Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a des influences occidentales musicalement ? Par exemple, est-ce que la musique américaine arrive au Soudan ? Est-ce que...
Oui.
Ouais, oui, d'accord.
Il n'y a que la musique américaine.
D'accord. Donc des artistes, j'imagine, comme Michael Jackson.
Bob Marley.
Bob Marley, ouais.
Madonna. Ouais, Madonna aussi.
Oui, Madonna
ah,
aussi. Ouais.
Bah oui, bah j'espère bien quand même.
Est-ce qu'il est facile de vivre de l'art au Soudan ? Est-ce qu'il y a des musiciens professionnels ou est-ce que chacun fait de la musique ?
Il y a un musicien professionnel
ouais,
aussi.
D'accord. Et est-ce que vous, la musique, c'est quelque chose qui est enseigné dès le plus jeune âge ? Est-ce que ça fait partie de votre culture ou...
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. C'est une évidence. Et Taoufik, alors, quand on dit que tu danses, c'est sur tout type de danse ou plus reggae ?
Oui, c'est toutes les danses.
D'accord, ouais. C'est le rythme, un rythme naturel. Et alors moi, je voudrais juste savoir une petite chose. Est-ce que les divertisseurs, ça vous a permis de connaître d'autres personnes blésoises ? Est-ce que vous avez réussi à avoir des amis ici, des Français, ou pas forcément français, mais non. Est-ce que ça vous a permis de rencontrer vraiment des,
oui,
des
bien
gens
sûr. Oui, oui.
Ouais. Vous arrivez aujourd'hui à sortir, à avoir un cercle d'amis.
C'est ça.
Oui, d'accord.
Il y a Amar aussi qui va participer à Wanted. Donc,
Il
a été... Petit coup de pub aussi pour Wanted.
Oui, Wanted, hein. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est que ce projet ?
Oui, c'est un projet collectif qui vise à réunir un maximum de personnes pour surtout jouer des percussions, pour avoir un projet de spectacle.
Mené par la Maison de Bégon, à l'initiative de la Maison de Bégon.
À l'initiative de la Maison de Bégon, c'est un projet qui existe depuis de nombreuses années maintenant. Et qui prend une nouvelle forme, un nouveau projet pour cette année, voilà. Et puis il va y avoir certainement la première intervention va certainement être sur Mixter avant peut-être d'aller dans une
salle. Une tournée internationale.
On la réclame. Hein.
Oui,
ça fait des années qu'on réclame de partir en tournée.
Ceux qui ont vu le spectacle de l'année dernière peuvent dire que c'est un spectacle capable de sortir de l'Hexagone.
Oui, tout à fait.
Justement, Amar, l'année dernière, il avait placé donc les spectateurs.
D'accord.
Donc,
alors peut-être l'année d'avant.
Au jeu de paume.
Au jeu de paume et l'année d'avant aussi.
L'année d'avant aussi. Oui,
d'accord. Et donc là, tu intègres l'orchestre.
Tu vas jouer de la musique.
Et quel instrument? Quel instrument?
Fait comme instrument là-dedans.
Les tam-tam.
Les tam-tam. D'accord.
Tu te souviens du nom? Si c'était du djembé ou non?
Non.
Tu te souviens pas?
Je me souviens plus.
Et on fait aussi des ateliers musicaux avec Redouane Zahraoui,
oui,
qui nous donne beaucoup de son temps.
Excellent oudiste,
voilà,
si je ne m'abuse.
Exactement. Et donc, une fois par mois, Redouane organise un atelier musical aussi à La Fabrique. Donc,
À La Fabrique.
C'est ça. On a pris un abonnement.
Oui.
Donc, le vendredi après-midi. Et ça nous permet justement de mixer aussi des musiques soudanaises, des musiques afghanes, et toujours accompagnées du piano ou bien du oud.
Ouais. Alors, tu dis du coup musique soudanaise, musique afghane, parce que je crois que ce qu'il faut dire, c'est quand même les principales populations
que nous, on accompagne, sont effectivement soudanaises et afghanes.
Et vous arrivez entre vous à tisser des liens entre soudanais et afghans?
Un peu.
Un petit peu.
Un petit peu.
Un petit peu.
Ali, je suis désolée.
Oui.
Oui. Je sais que
il est bientôt. Il est bientôt l'heure.
Toi, tu danserais pas jusqu'au bout de la nuit, mais tu parlerais.
Moi,
jusqu'au bout de la nuit.
Il faut savoir me faire taire. Très bien.
Encore mille fois merci d'être venu.
Merci à tous les trois.
Merci mes camarades immobiles voyageurs. On se retrouve le mois prochain.
On se retrouve le mois prochain.
Voilà, en 2019.
Oui.
Je rappelle que l'émission est podcastable sur studiozef.fr. Et on ne manquera pas de mettre toutes les coordonnées de tout ce qu'on s'est dit dans cette émission. Voilà, merci encore. À bientôt à la radio. Salut.
Salut à tous.